l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Je voudrais réfléchir aujourd'hui sur deux textes qu'on pourrait résumer dans cette phrase. Comment reconnaître Dieu et quelles conséquences cela a-t-il sur notre vie? D'abord un texte du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, les versets 26 à 41. Je résume ce qui précède. Les apôtres ont été jetés en prison, puis délivrés pendant la nuit par l'ange du Seigneur. Ils se sont alors rendus au temple pour y enseigner. Alors le commandant et les gardes allèrent les chercher. Ils les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Quand ils les eurent amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. « Ne vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là » dit-il. « Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes décidés à faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus, que vous, vous avez éliminé en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. » Nous, nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les supprimer. Mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi estimé de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin et il donna l'ordre de faire sortir un instant ces gens. Puis il dit, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Avant ces jours-ci, en effet, s'est levé Teudas, qui se disait quelqu'un et auquel se sont ralliés environ 400 hommes. Il a été supprimé et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été mis en déroute, il n'en est rien resté. Après lui s'est levé Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il a entraîné du monde à sa suite. Lui aussi a disparu et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision et d'une œuvre humaine, elle disparaîtra, mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. » Ils se laissèrent persuader par lui. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom. Et le deuxième texte est dans l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 1 à 19. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon, Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il ceignit un vêtement car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voilà un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, toi ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, sois le berger de mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, es-tu mon ami? Il lui répondit, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien toi que je suis ton ami. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Nous sommes ici presque à la fin de l'évangile de Jean, il ne nous manque que les cinq derniers versets. Ce dernier chapitre est souvent considéré comme une annexe à Jean, moi je dirais plutôt un appendice. Il se dit qu'il a été rajouté ultérieurement après la fin de l'évangile en question, et qu'il n'est peut-être même pas du même auteur car ce n'est pas tout à fait le même style. Peu importe au fond. En effet, l'évangile pourrait être fini, Jésus-Christ est ressuscité. Cela a été constaté par Marie de Magdala et peut-être d'autres femmes non mentionnées par Jean, par Simon-Pierre et le disciple que Jésus aimait. Cela a été annoncé à tous les disciples puisqu'ils l'ont vu alors qu'il se trouvait dans une maison verrouillée. Il les a envoyés en mission, celle de remettre les péchés, et il leur a donné l'Esprit-Saint comme aide. Il est même revenu encore une fois spécialement pour convaincre Thomas le sceptique. Et enfin, Jean a écrit au verset 30 et 31 du chapitre 20 une conclusion. Tout ce qui devait arriver est arrivé, et on rappelle que Jésus-Christ a fait encore bien d'autres choses qui ne seront pas écrites dans ce livre. On aurait pu s'arrêter là, tout semble avoir été dit. Christ est ressuscité, le doute n'est plus possible. Et puis, voici le chapitre 21. Et puis, et pourtant, quelques disciples retournent pêcher, comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé, comme s'ils n'avaient pas vécu ces événements bouleversants et prodigieux, comme s'ils n'avaient pas été appelés à autre chose, bref, comme avant. Ils retournent à leur routine, il faut bien vivre. À quoi a servi la résurrection? Rien n'a donc changé? Ils ont comme rêvé pendant 3 ans? Peut-être cela veut-il dire qu'ils ressusciteront eux aussi un jour, mais en attendant, la vie n'a pas changé. La résurrection, cela concerne les morts. Cela n'a rien à voir avec les vivants. Et c'est le retour à la dure réalité, avec son lot de longues nuits éreintantes et parfois infructueuses. Ils sortirent, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. On pourrait lire ce qui leur arrive alors comme un deuxième récit de pêche miraculeuse. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Certes, ce n'est pas du tout le même contexte que celle que tout le monde connaît et qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5. On y était au tout début du ministère de Jésus et les futurs disciples ne l'avaient pas encore rencontré. Ce premier miracle les avait incités à le suivre. Là, c'est en quelque sorte un dernier miracle et comme un retour au point de départ. Mais est-ce bien cela qui est important ici ? Comme d'autres témoins de la résurrection avant eux, comme Marie, comme les pèlerins d'Emmaüs par exemple, aucun d'eux ne reconnaît a priori Jésus en cet inconnu qui les interpelle. Assez étonnant de la part de disciples qui ont vécu avec lui et qui ont déjà été témoins sans problème de deux apparitions. Je dis aucun d'eux, mais en fait, à partir de là, l'histoire se concentre sur deux d'entre eux et il n'est plus fait mention des cinq autres du début, dont la plupart ont pourtant été explicitement nommés. Notre appendice ne concerne en réalité que Pierre et Jean et leur mission particulière. Qu'est-ce qui le fait soudain reconnaître ? Je crois que c'est là, plus que le récit d'un miracle, ce que le texte peut nous montrer. Cela et ce qui s'ensuit. Certes, il y a pêche abondante alors que la nuit les avait laissés bredouilles, et cela fait signe pour Jean puis pour Pierre à qui il le dit. Auparavant, il a déjà été question de repas partagés. S'ils retournent pêcher, c'est pour avoir de quoi partager un déjeuner avec l'inconnu de la plage. Il les a interpellés. Mes enfants, c'est bien un maître qui appelle ses disciples. Cela ne suffit pas pour qu'ils le reconnaissent consciemment, mais tout de même, ils lui obéissent. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. La pêche est seulement ce qui permet la transition avec le repas. D'ailleurs, Jésus ne leur demande pas si la pêche a été bonne, mais s'ils ont quelque chose à manger. Et lorsque le filet plein arrive, il leur dit bien d'apporter des poissons qu'ils ont pris, fruit de leur obéissance et de leur travail, mais curieusement tout est déjà prêt, des poissons qui grillent ainsi que du pain. Plus encore que la pêche extraordinaire, un filet qu'ils ne peuvent plus remonter tellement il est lourd mais que Pierre rapportera à lui tout seul sans qu'il se déchire et qui contient 153 gros poissons. Sur ce nombre, on pourrait disserter. Saint Augustin avait déjà remarqué que c'est un nombre mathématiquement particulier, mais plus probablement il est employé symboliquement pour représenter toute l'humanité qui est ainsi offerte au Christ, puisqu'il paraît que les anciens avaient répertorié 153 espèces de poissons en tout. Cela n'a à vrai dire guère d'importance. Plus encore que cette pêche miraculeuse, donc, l'appel au partage d'un repas prend pour Pierre une signification soudaine et irrésistible. Dès qu'il comprend à qui il a affaire, il se jette à l'eau et nage vers la plage sans attendre que la barque accoste. Alors, qu'est-ce qui permet de reconnaître le Christ, de savoir en somme qu'on est en relation avec Dieu? Si je reviens au premier texte, dans les Actes des Apôtres, ce qui est frappant, c'est l'argumentation de Gamaliel. Si cela dure, s'ils continuent à prêcher, si ce qu'ils disent continue à être écouté, alors c'est que cela vient de Dieu, car sinon, cela ne durera pas. De même, lors de ce petit déjeuner sur la plage, c'est la répétition de certains gestes. Il prit le pain et le leur partagea, qui confirme que c'est Jésus qui est là. C'est par la permanence ou la répétition de ses actes que Jésus se fait reconnaître. Et puis, cette certitude entraîne une réponse irrésistible. Pierre se jette à l'eau, il est prêt à tout ce qui lui sera demandé. De même, les apôtres devant le Sanhédrin ne peuvent se taire, et même après avoir été fouettés, ils continuent avec audace, et continueront sans arrêt et malgré les interdictions, car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Durabilité et permanence, et caractère irrésistible, donc. Alors qu'au départ c'est Jésus qui était demandeur, finalement ce n'est plus eux qui préparent le repas comme pour la Pâque, mais c'est bien lui qui le leur a préparé. Après la résurrection, c'est le Christ qui nous invite. C'est également lui qui prend l'initiative du dialogue et de la confiance. L'exemple de Pierre montre qu'à travers ce repas partagé, qui crée une intimité, c'est chacun personnellement qui est invité, qui participe, qui reçoit un appel, qui peut le reconnaître. La rencontre avec le Christ, alors même qu'il était mort et que tout semblait fini, transforme la relation avec Dieu et la foi en quelque chose de dynamique, aussi bien au niveau communautaire que personnel. Le désœuvrement des disciples devient une mise en route, la pêche infructueuse devient miraculeuse, le repas quotidien devient celui du Seigneur, Pierre qui a trahi est réhabilité par un triple appel faisant écho à son triple reniement qui va s'en trouver effacé. La conséquence de la rencontre, c'est une modification de la vie tout entière. On peut remarquer une gradation dans les interpellations, d'abord un appel à l'obéissance et à recevoir la grâce, puis à la collaboration et au partage avec ce que nous avons et ce que nous sommes, puis une confirmation de l'alliance au travers du pardon, malgré nos infidélités et nos chutes répétées, et enfin un envoi en mission. Le Christ ressuscité se révèle aux disciples, il se révèle à nous et nous révèle à nous-mêmes comme des êtres renouvelés, comme des ressuscités, pourrait-on dire, prêts à l'ouvrage. Depuis 2000 ans revient ce jour de Pâques et ce message, aussi frais et aussi vivant, aussi troublant et néanmoins assuré, aussi provocateur et vivifiant qu'au premier jour. Depuis 2000 ans, le Christ ressuscité se laisse approcher et reconnaître, se donne à nous, entre autres à travers le signe du repas partagé, que nous commémorons lors de la scène. Bien sûr, à chaque fois, après Pâques ou après le culte, nous aussi nous nous laissons reprendre par le temps qui s'écoule, par nos tâches quotidiennes, par la vie normale. Et c'est comme si nous oublions cette lumière, comme si nous nous assoupissions, comme si cela s'estompait pour redevenir grisaille, à peine la vague nostalgie d'une histoire ancienne. Et pour pourtant cela revient avec insistance. Après Pâques, nous ne devrions pas pouvoir retourner simplement à nos occupations habituelles. En écoutant la parole, nous découvrons que celui qui nous parle est vivant, et c'est alors que notre stérilité prend fin et que nous devenons nous aussi vivants. Alors, que faut-il que nous fassions pour le faire connaître et reconnaître? Ce texte nous en a montré un visage simple et vrai, profondément humain, celui d'un maître, mais aussi d'un compagnon affectueux et d'un ami fidèle, qui redonne espoir et courage, qui permet de transmettre un message d'amour qui enflamme le monde depuis 2000 ans. Où est le ressuscité dans nos vies? Il est là, au bord, discrètement présent à nos côtés. Il faut aiguiser notre écoute pour reconnaître sa trace et sa parole, car il ne cesse de nous parler et de nous interpeller. Aimons-nous plus que les autres? Acceptons-nous de le suivre? Prendrons-nous ce risque? Quelles seront nos priorités? Oui, que faut-il faire? Pas être parfait, nous ne sommes pas au-dessus des autres. À l'image de Pierre, nous ne sommes pas parfaits, et nous sommes souvent tentés d'abandonner, de renoncer lorsque les difficultés apparaissent. Comme lui, nous avons sans doute renié notre foi, et plus souvent que 3 fois peut-être. Nous nous sommes tus alors que nous aurions dû crier et proclamer. Comme lui, nous avons été tentés de faire comme si de rien n'était. Que faut-il faire? Pas être plus efficace, mais plus aimant. Nous aussi sommes appelés, nous aussi avons à répondre à la même question si nous reconnaissons sa présence. M'aimes-tu? Et comment donner notre réponse? Sinon en fondant notre vie sur cet amour, au bénéfice de tous, sans restriction ni préférence. Comment donner notre réponse, sinon en annonçant sans relâche la bonne nouvelle de son amour gratuit pour chacun tel qu'il est, de son amour qui rend vivant sans cesse à nouveau, même quand on a l'impression d'être comme mort, la bonne nouvelle de son amour qui rend libre. L'annoncer sans cesse et sans peur, avec détermination, conviction et certitude, sans honte. Dans une société qui parle de toute autre chose et qui met en avant de toute autre valeur, pour la plupart Pâques la résurrection n'est-il pas devenu Pâques les vacances et Pâques les chocolats, ce n'est pas forcément facile de manifester des convictions si étranges par rapport à l'attitude majoritaire et aux réflexes courants. Mais rappelons-nous, ça ne l'était pas non plus au premier temps. L'annoncer en parole et en acte, car chacun a besoin de l'entendre à nouveau pour être réconforté, rassuré, entraîné. Ne savez-vous pas que Christ est vivant? Qu'il vous permet de reprendre souffle et vie, malgré les difficultés du quotidien, qu'il renouvelle votre joie jour après jour, semaine après semaine, pour qu'elle vous accompagne et pénètre tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Oui, Christ est ressuscité, et cette nouvelle extraordinaire devrait nous rendre vivants avec lui, plein d'une joie communicative et indestructible, et plein de force pour bâtir une terre nouvelle, une humanité nouvelle, sous son regard amical et bienveillant. Amen. Et je vous propose pour terminer une prière d'Élian Cuvillier. Si vous le cherchez dans les méandres de votre vie et de votre histoire, alors écoutez. C'est lui qui vous a cherché le premier et qui viendra toujours à nouveau vous trouver, peut-être à l'heure où vous pensiez que plus rien ne surviendrait pour vous. Si vous l'appelez de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme, alors écoutez ceci. C'est lui qui le premier vous a appelé par votre nom, d'un nom que nul ne peut vous ravir parce qu'il est le nom que quelqu'un donne à celui qu'il aime d'un amour inconditionnel. Et si vous désirez déposer devant lui un peu de ce que vous possédez et de ce que vous pensez être, alors écoutez bien. C'est lui qui le premier, sans rien exiger en échange, vous donne la paix et la confiance qui sont nécessaires à votre vie. C'est pourquoi si l'on vous demande de justifier votre existence, alors désignez simplement au cœur de vous-même ce qui vous a été donné. La parole qui vous a aimé, le geste qui vous a guéri, la présence qui vous a relevé. C'est cela qui justifiera votre vie, ce que quelqu'un a fait pour vous, ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Amen.